Bon, super, je vous invite à la prière avant d'aller plus loin. Le psaume 115 commence ainsi. Non pas à nu, éternel, non pas à nu, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bienveillance, à cause de ta vérité. Pourquoi les nations diraient-elles, où donc est leur Dieu? Notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Et à la lumière de cela, Seigneur, nous te demandons, donc que tu travailles aujourd'hui dans nos cœurs pour entendre ta voix, pour être fortifié dans notre foi et pour être des témoins de Jésus-Christ là où on se trouve. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen.
Amen.
Amen. Alors, j'imagine que vous êtes soulagés de savoir que jusque-là, dans ma vie, je n'ai jamais fait partie à une émeute. J'aurais voulu de temps à autre lancer une brique dans certains contextes, mais jusque-là, jamais publiquement devant les autres. D'après plusieurs témoignages, il y a toujours un mélange de bruit, d'excitation, de turbulence, de crainte que les choses vont tourner mal lorsqu'il y a une telle émeute. Contrôler toute une foule, on peut par exemple citer l'assaut du Capitole des États-Unis à Washington en janvier 2021, ça c'est un exemple qui vient à l'esprit, où il y a un mélange d'agitateurs quasi professionnels qui s'y rendent, avec d'autres manifestants plutôt paisibles dans leur esprit, parce que la contrôler tout cela, c'est très délicat, voire parfois dangereux. Je pense qu'on en est conscient. Et notre texte ce matin nous plonge, pour la première fois dans le récit des Actes, pour un acteur clé de la foi chrétienne, Paul, au plein centre d'une émeute qui, elle aussi, était difficile à contrôler. Peut-être que vous avez pu capter cela lors de la lecture. On ressent l'attention lors de ce récit, le danger de ce qui pourrait arriver à deux compagnons de Paul, Gaius et Aristarque, qui sont pris comme ça par la foule et emmenés vers le théâtre où se trouve toute la foule rassemblée. Paul, il veut raisonner avec cette foule, mais les disciples, et même selon le verset 31, quelques-uns des Asiarques, alors quels sont ces Asiarques? Des fonctionnaires du province romain de l'Asie, où se situait Éphèse, et qui, eux, ne sont pas chrétiens, ces Asiarques, mais eux qui connaissent Paul à un point où ils sont devenus ses amis, et eux aussi conseillent Paul vivement de ne pas y aller. C'est trop dangereux, c'est trop délicat, c'est trop peu stable. On ne sait pas ce qui peut arriver dans ce contexte. Donc l'image est celle de la confusion. À un point où, verset 33 de notre texte, la plupart ne savent même pas pourquoi ils s'étaient réunis. C'est toujours un peu bizarre cela, n'est-ce pas? Mais voici ce que c'est une émeute. La foule attire une foule. Et cela n'empêche qu'ils crient pendant 2 heures, grande est l'Artémis des Éphésiens. À un point que le pauvre Alexandre, c'est un juif, c'est pas un chrétien, il est saisi par la foule et lui n'arrive pas à se faire entendre lorsqu'il veut faire sa défense. Parce que c'est pas un endroit pour se défendre. Personne veut t'écouter à ce moment-là. Et l'unique autre scène que nous avons dans le Nouveau Testament jusque-là, il y a encore quelque chose en acte chapitre 21, mais jusque-là, l'unique autre scène qui ressemble à celle-ci, c'est laquelle? C'est lors de la crucifixion, où la foule crie « Crucifie-le, crucifie-le ». Le récit donc se trouve tout au début, ce récit-ci en acte 19, de la dernière section du livre des Actes, là où Luc continue à tracer à différents moments le progrès de la proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, donc de l'Évangile, de Jérusalem jusqu'à Rome. Chapitre 19, verset 20, c'est le verset avant le texte que nous avons sous les yeux. Il y a une conclusion de la dernière section. C'est ainsi que par le pouvoir du Seigneur, la parole se répandait et gagnait en force. Et donc, du coup, maintenant, on est dans la dernière section. L'Évangile avance. Et lorsque l'Évangile avance et progresse, cela soulève toujours des questions à propos de la foi chrétienne et la cohésion sociale. Aujourd'hui, en Occident, nous sommes, je pense, à juste titre, quand même parfois, préoccupés par la cohésion sociale et certaines expressions en Europe d'islam. On pense à la fusillade qui avait lieu à Washington il y a 2-3 jours, je pense, qui faisait écho de ce qui a eu lieu au musée juif ici à Bruxelles en 2014. Mais au 1er siècle, c'était la croissance pas de l'islam, mais de la foi chrétienne qui pose des questions pour des chrétiens eux-mêmes et pour ceux de l'Empire romain. Et donc, 3 choses à propos de la foi chrétienne et la cohésion sociale aujourd'hui. Sous ce titre, l'Évangile, l'Empire et l'émeute. La foi chrétienne et la cohésion sociale. D'abord, le danger de la foi chrétienne. Le danger que la foi chrétienne pose pour une société qui n'est pas chrétienne. L'histoire tourne, vous l'avez bien vu, je pense, autour d'un certain Démétrius. Il était orfèvre, un artisan qui fait des ouvrages en argent. Il gagnait bien son pain, c'est clair, car le texte nous le dit. Il fabriquait, lui, des temples d'Artémis en argent et procurait aux artisans un profit considérable. Artémis, ou Diane en latin, était connue comme déesse de la fertilité et comme maîtresse des bêtes sauvages. Elle aimait la chasse. C'est la fille de Zeus. Comme suggère le texte, toute une série d'activités commerciales se sont développées autour d'elle. Elle était vénérée dans de nombreux endroits, puisque nous connaissons encore aujourd'hui apparemment 33 sanctuaires à son effigie. Mais c'est à Éphèse que se trouvait le principal lieu de culte d'Artémis. Le temple qui lui était consacré était, imaginez-vous, 4 fois plus grand que le Parthénon à Athènes. Il comportait apparemment des piliers de plus de 18 mètres d'hauteur et plus grand dans l'ensemble qu'un terrain de foot aujourd'hui, estimé apparemment à être 130 mètres par 70 mètres. C'était l'une des 7 merveilles du monde de l'Antiquité. Et Démétrius, donc, permettait plus qu'un simple petit souvenir touristique qu'il fabriquait. « Ah, oh, super, j'ai mon petit truc du temple d'Artémis. » Mais plutôt une petite idole, soit d'Artémis elle-même, soit de son sanctuaire, de son temple, qui permettait, lorsqu'on amenait ça chez soi, loin d'Éphèse et de ce temple d'Artémis, permettait que cette déesse soit là avec nous dans notre foyer. Beaucoup achetaient cela parce que beaucoup voulaient continuer à avoir Artémis, comme beaucoup d'autres dieux, présents avec eux dans leur quotidien. Et bien entendu, ce commerce, lui, a donné, fin du verset 24, un revenu conséquent. Mais il est troublé, car depuis environ 2 ans, depuis l'arrivée de l'apôtre Paul à Éphèse, petit à petit, l'Église chrétienne commence à grandir en nombre, en force, et cela suite à la prédication d'une toute autre divinité, Jésus-Christ, de la part de cet apôtre Paul. Selon la pensée de l'Antiquité, toutes les divinités méritaient d'être honorées. Et donc, de proposer une nouvelle signifiait que cette nouvelle divinité devait s'installer dans la grande panoplie des dieux qui existaient. Mais selon le message que Paul avait proclamé, que nous avons tracé aussi dans cette église ces dernières semaines, et pour reprendre donc ce qu'il dit dans la lettre de 1 Thessaloniciens, la foi en Jésus-Christ exigeait que nous nous tournions des idoles pour adorer le Dieu vivant et vrai, le seul vrai Dieu unique. Pour Démétrius, donc, non seulement de tels propos, comme pour beaucoup d'autres, étaient un peu étranges et injustifiables, mais c'était aussi dangereux. Car cela mettait en danger son chiffre d'affaires, c'est clair. Quelle est donc sa stratégie? C'est verset 25 de rassembler ses co-artisans, de soulever le problème que le bien-être dépend de cette industrie, de cette activité commerciale, et ensuite donc d'expliquer pourquoi le message véhiculé par l'apôtre Paul, la source donc de la proclamation de l'évangile à Éphèse, menace le bien-être. Et il fait preuve d'une bonne compréhension, je pense, des enjeux. Verset 26, « Les dieux faits par la main des hommes ne sont pas des dieux. » C'est ce que Paul avait effectivement dit plus tôt dans quelques discours en Actes, au chapitre 14, au chapitre 17. De là, il déduit que le message de Jésus-Christ menace l'avenir à long terme d'Artémis, son prestige et même son temple. Et donc, sur ce point-là, Démétrius, il a raison. Parce que si Dieu est réellement Dieu, alors Dieu ne peut pas être la création de l'homme. Sinon, il n'est pas Dieu. Adorer un Dieu créé par l'homme, si le vrai Dieu existe, cela est totalement ridicule. Il n'y a pas d'ironie que c'est Démétrius, lui, qui dit, fin du verset 26 de notre texte, que Paul dit que les dieux faits par la main des hommes ne sont pas des dieux, comme si cela est scandaleux. Vous imaginez? Mais il y a le vrai Dieu. Et donc, ce Dieu ne peut pas être fait par la main des hommes. Et ici, je pense, il y a écho de d'autres textes de l'Ancien Testament qui dénoncent les idoles. Benjamin nous a lu quelques versets du psaume 115. Mais il y a aussi Ésaïe chapitre 44 qui parle aussi dans cette même veine. Verset 9 de Ésaïe 44, pas besoin de trouver, vous pouvez juste écouter. « Ceux qui fabriquent des sculptures, dit le prophète, ceux qui fabriquent des sculptures sacrées ne sont tous que vides, et celles qui font le plus grand plaisir ne servent à rien. Du reste, elles témoignent elles-mêmes, elles ne voient rien et ne savent rien. » Ça, c'est une idole, parce que ce n'est pas ultimement réel, vrai. Une telle personne, Ésaïe 44, 19, ne se met pas à réfléchir. Il n'a ni le discernement, ni l'intelligence de se dire « J'ai brûlé une moitié du bois, j'ai cuit du pain sur ces braises, j'ai rôti de la viande pour manger, et avec le reste, je ferai une horreur, une idole. Je me prosternerai devant un morceau de bois. Il se nourrit de cendres, son cœur s'est laissé tromper, et l'égard, il est incapable de se délivrer lui-même et de dire « N'est-ce pas une fausseté que j'ai dans la main ?» Une condamnation de la part de Dieu au sujet de ce que l'homme fabrique pour remplacer Dieu. Le Dieu que nous adorons n'est pas le Dieu de l'imagination de l'homme. Il est effectivement le Dieu créateur. Actes chapitre 17, verset 24, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve est le Seigneur du ciel et de la terre. Et il n'habite pas dans des temples faits par la main de l'homme. Et ce Dieu, le Dieu donc vivant et vrai, nous appelle chacun d'entre nous, parce qu'il est là, il est réellement Dieu, il nous appelle à la repentance, de se reconnaître fautif devant lui. Et merci Seigneur, il pourvoit un moyen pour que notre idolâtrie d'avoir remplacé Dieu avec d'autres petits dieux soit pardonnée. Il a pour vous un moyen pour cela, par Jésus-Christ lui-même, son œuvre à la croix. Il est mort pour prendre sur lui la punition que nous avons mérité. C'est grandiose, ce message-là que nous proclamons. C'est glorieux. Mais oui, là-dessus, il n'y a pas de compromis possible. Il n'est pas, ce Dieu-là, un Dieu parmi d'autres. Et donc, l'Évangile dans ce sens-là, le sous-titre que j'ai mis sur ce premier point, menace une société idolâtre. Nous devons être clairs là-dessus. Que nous sommes des Éphésiens engagés dans l'idolâtrie d'Artémis, que nous sommes des Européens du XXIe siècle engagés dans d'autres pratiques idolâtres de notre époque. Qu'est-ce que l'idolâtrie? Bah, tout ce qui se trouve dans ce monde créé par Dieu, que nous mettons sur un piédestal et qui demande notre allégeance ultime. La chose qui prime au-dessus de toute autre chose, pour mon temps, pour mon énergie émotionnelle, pour mon bonheur, pour l'estime de soi que j'ai par rapport à moi-même, pour mon argent, et ainsi de suite. Nos idoles sont encore là, dans la société, les amis. Le temps que j'accorde à mon look, ou ma réputation, ou mon épanouissement sexuel, ou ma sécurité financière, à mon corps, à ma réussite professionnelle ou académique, à mes relations familiales. Si ces choses-là dominent mon agenda, priment sur tout autre engagement, dictent si je dis oui ou non à toute autre chose, alors ces choses-là sont devenues des idoles. Et la foi chrétienne n'est pas compatible avec des idoles. Car Dieu demande une appartenance ultime et exclusive à lui. Alors prenons un petit exemple, si vous le permettez. L'idole que mon corps m'appartient. Et donc j'ai le droit de faire ce que je veux avec. Cette idole-là est le fondement philosophique pour l'avortement et pour l'euthanasie. Mon corps, mon choix. Mais nous devons dire, j'espère toujours humblement et avec un ton qui n'est pas supérieur aux autres, que cela n'est pas vrai. Nous appartenons tous à Dieu. Et même un petit embryon, un autre être humain génétiquement parlant, qui porte dès la conception d'autres marqueurs génétiques que la maman ne porte pas, il ou elle, cet embryon, n'appartient pas en premier à la maman. Mais à Dieu, son créateur. Bien sûr, cela ne signifie pas qu'il n'y a pas des cas difficiles et sensibles à traiter, mais la repentance à Dieu signifie que je ne réclame plus une autonomie totale sur mon corps. Je reconnais que je suis redevable envers Dieu pour ce que je fais avec mon corps qu'il m'a donné, avec le corps de quelqu'un d'autre, d'ailleurs, qui vit parfois en moi, pendant un temps. Alors ce message-là se heurte à la sensibilité occidentale aujourd'hui. Mais nous ne pouvons pas éviter ce conflit. L'Évangile, dans ce domaine, comme pour tant d'autres, menace une société idolâtre. La société occidentale fait de son mieux pour maintenir donc la religion dans une petite boîte strictement privée. Car sinon, elle, tout appelle à un méta-narratif qui dit ce que nous devons croire pour tout le monde, bah, cela n'est rien qu'une tentative d'un groupe de dominer sur un autre groupe. Et personne donc a le droit de nous dire « voici la voie vers Dieu ». Mais tout le monde doit plutôt dire bah, « voici ma voie vers Dieu ». Mais ce n'est pas ta voie et je respecte ce choix. Il y a toute une différence entre ma voix et la voix, bien entendu. Mais ceux qui suivent, d'après le verset 23, la voix, comme la foi chrétienne donc est appelée, ne peuvent pas affirmer que toute voix est légitime, quand il n'y a qu'une seule voix qui mène au Dieu vivant et vrai. Cette voix, c'est Jésus-Christ. Le danger, donc, d'abord, pour la foi chrétienne envers une société idolâtre. On aurait pu donner d'autres exemples, mais nous devons avancer. Point 2, le danger, ensuite, pour la foi chrétienne. Elle-même, elle est menacée par cette société idolâtre. Car bien sûr, Démétrius, lui, il est malin. Il sait que toute l'identité culturelle d'Éphèse tourne autour d'Artémis. Et il sait qu'avec un peu d'encouragement, il peut fournir l'étincelle qui transformera en feu et en un véritable incendie. Oui, il est soucieux, bien sûr, en dessous de lui pour son revenu, mais il joue publiquement plutôt la carte identité d'Éphèse. Et cette carte-là, ça marche. Verset 27, cela risque non seulement de jeter le discrédit sur notre profession, mais encore de réduire à rien le temple de la grande déesse Artemis, et même de dépouiller son prestige, celle à qui toute l'Asie et le monde entier rendent un culte. À ces propos, à ce moment-là, rempli de fureur, ils se mirent à crier, « Grande est l'Artémis des Éphésiens !» Toute la ville fut dans la confusion. Ils se précipitèrent d'un commun accord au théâtre et entraînèrent avec eux les Macédoniens, Gaius et Aristarque, compagnons de voyage de Paul. « Touchez Artémis, dit Démétrius, et tu touches à ce que nous sommes en tant que peuple d'Éphèse. » C'est notre identité culturelle. Et ça, tu ne touches pas. Et donc, OK, à la limite, d'ajouter un autre dieu parmi les dieux existants que nous avons, mais pas du tout OK de mettre à la poubelle le système tout entier des dieux que nous adorons. Cela mène à quoi? Verset 32, tous crient d'une seule voix pendant près de 2 heures, vous imaginez, grande est l'Artémis des Éphésiens. Amen. On est des Éphésiens, n'est-ce pas? Se trouver là, dans ce contexte-là, c'est un peu comme si je suis supporter de Tottenham Hotspur. Alors, ceux qui suivent le foot vont savoir ce que ceci signifie. Je suis supporter de Tottenham Hotspur au milieu des supporters de Manchester United après la performance en finale cette semaine lamentable de Manchester United. Et donc, se retrouver avec tout un groupe en colère, et toi, tu es dans l'autre camp, cela n'est pas à conseiller. Donc, l'accusation, c'est quoi? C'est que les chrétiens menacent la cohésion sociale. C'est une accusation sournoise, insidieuse, car elle est plus émotionnelle, cette accusation-ci. Pas très rationnelle. Comme si être chrétien, pour finir, c'est d'être un peu rabat-joie. Il faut l'éviter. Encore aujourd'hui, je pense, les croyants ne sont pas à l'abri de ce genre d'accusation. Se tenir donc contre l'avortement nous met dans le camp anti-la femme. Se tenir contre l'euthanasie nous met dans le camp sans avoir de la compassion. Se tenir dans le camp relation sexuelle, rien que pour le mariage entre un homme et une femme, le camp dépassé, démodé, contre l'amour authentique. Se tenir contre d'autres religions comme des moyens légitimes pour adorer le vrai Dieu. On est dans le camp intolérant. Et chaque fois, c'est faux, chers amis. Et d'ailleurs, c'est en grande partie, de par une compréhension chrétienne du monde, que nous sommes arrivés aujourd'hui à une compréhension de la dignité de la femme, de la compassion pour les faibles, d'un amour qui donne de nous-mêmes plutôt qu'un amour transactionnel et d'une tolérance de tout être humain, peu importe ses convictions, car tous sont créés à l'image de Dieu. La foi chrétienne a fortement influencé notre pensée occidentale. Mais nous, les croyants aujourd'hui, nous ne devons pas être naïfs. De telles accusations ont toujours été lancées lorsque la foi menace des intérêts particuliers. Alors imaginons pour un moment, si vous êtes parents ici présents, que plus que la moitié de la classe de votre enfant en première secondaire se convertisse à la foi en Jésus-Christ. Ce serait merveilleux, n'est-ce pas? Et conséquence de leur conversion, c'est qu'ils commencent à dire à leur prof de science qu'ils croient que c'est crédible encore aujourd'hui de dire que Dieu a créé l'univers, sans forcément se positionner pour autant sur les 7 jours de la création. Il y a un peu de débat même entre chrétiens. Que l'école reçoive par la suite quelques emails de la part des parents de d'autres élèves soucieux que leurs enfants ne soient endoctriné dans une vision anti-scientifique du monde, me semble en fait fort probable, bien que cela ne soit pas forcément fondé scientifiquement parlant. Et si l'école insiste dès lors que le créationnisme n'est pas un positionnement scientifique, alors cela provoquera une pression culturelle de la part des autres de ne pas mettre en danger le sérieux académique de l'école. Nous sommes dans une époque où il y a ce genre de pression mise sur des croyants en Christ. Parfois, le fait de jouer la carte identité est plus subtil encore. Tu joues peut-être au foot, mais tu ne participes pas à la beuverie à l'excès après le match. Et on t'accuse à ce moment-là de quoi? De miner l'ambiance au sein de l'équipe. De mettre ton orgueil de côté et faire vraiment partie de l'équipe. Alors bois avec nous à l'excès, sinon tu ne fais pas vraiment partie de l'équipe. Lors de la journée Pride, il y a une semaine, ici à Bruxelles, la présidente de la Commission européenne a posté un tweet qui disait en anglais « Be proud, soyez fiers. Fiers de ce que vous aimez. N'oubliez jamais, l'Europe est votre allié. Je suis votre allié. » Sous-entendu, en partie en tout cas, si vous n'adhérez pas à une vision du monde dans laquelle le mariage gay et l'identité transgenre est légalement reconnu, alors vous n'êtes pas un vrai Européen. Vous êtes dans le camp plutôt de la haine, de l'obscurantisme, etc. Un dernier exemple, plutôt religieux cette fois-ci, les amis. Tu te convertis à une foi évangélique. Et jusque-là, tu vis et tu fais partie d'une famille très catholique. Et cette famille voit que tu ne les rejoins plus à la petite grotte de Marie qui se tient dans le fond du jardin de la maison de la famille pour rendre hommage une fois par an et demander sa protection. Et que dit-on par rapport à toi qui se met un peu à part à ce moment-là? Tu fais quoi? Bah, tu mines la cohésion sociale de la famille avec cette nouvelle foi que tu as. Selon l'esprit, d'ailleurs, de certains catholiques de certaines époques, encore aujourd'hui, être belge, c'est être catholique. Et donc, il ne faut pas menacer la cohésion belge avec cette forme bizarre de la religion protestante. Non, vous ne priez vous même pas Marie. C'est vrai, à un point où, ici, Marie qui se trouve derrière le roll-up, on a placé le roll-up parce qu'on ne veut pas faire confusion avec Jésus-Christ et Marie. Mais avez-vous pris le temps, la personne qui nous accuse de ce genre de choses, de peser des arguments bibliques et historiques pour pourquoi une foi en Christ n'est pas compatible avec la place de co-rédemptrice qu'occupe Marie dans l'Église catholique romaine aujourd'hui? Souvent, ces arguments ne sont pas écoutés. Parce qu'au lieu d'écouter des arguments, on vous met à part comme étant dangereux, bizarre. Savez-vous d'ailleurs que pour des raisons théologiques bien fondées, Marie avait été appelée mère de Dieu pour la première fois lors d'un concile de l'Église à Éphèse en 431. Pour célébrer les résultats de ce concile d'Éphèse, le pape Sixte III a fait construire Sainte Marie Majeure, la plus grande basilique mariale consacrée à Marie, à Rome. Et dès ce moment-là, le culte de Marie et le développement de la piété populaire autour d'elle a vu le jour. Donc, ce n'est pas dans le Nouveau Testament, c'est bien plus tard. Et donc, il y a une ironie un peu amère que la ville où la grande Artémis avait été adorée en acte 19 que nous voyons aujourd'hui est devenue celle où le culte extravagant de Marie a reçu une reconnaissance en quelque sorte dogmatique dans l'Église catholique. Non, nous devons comprendre, et Luc le souligne, je pense, ici pour nous, qu'il y a un danger qui accompagne l'expansion de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, celle d'être accusé de menacer la cohésion sociale de notre société. Peut-être que vous connaissez déjà cela dans votre propre foyer, les amis. Pourquoi vous devez aller à votre culte, vous appelez ça, le dimanche matin, et ainsi négliger la famille? Et vous avez tendance à vouloir répondre, mais justement, mon culte, comme vous l'appelez, m'encourage pour finir à être un membre de la famille, sacrificiel et loyal. C'est injuste de m'accuser de cela. Mais en même temps, bien sûr, il y a du vrai là-dedans, que mon allégeance suprême n'est plus à mes parents, à mes grands-parents, à mes enfants, ou à mon conjoint, ou à mon école, ou à mon équipe, ou à ma collègue, ou à mes amis, mais au Dieu vivant et vrai. Celui que je sers en attendant son Fils qu'il a ressuscité, Jésus-Christ, celui qui nous délivre de la colère à venir. Et donc, nous pouvons s'attendre en tant que croyants que nous allons toujours avoir des personnes qui nous accusent de menacer la cohésion sociale. Mais nous pouvons attendre Jésus-Christ qui nous délivre de cette colère à venir, confiant de ne pas être fauteur de troubles, nous, d'être une influence néfaste pour notre société. Car ensuite, notre dernier point, Luc souligne la défense de la foi chrétienne. La défense de la foi chrétienne. C'est frappant que Paul ne se défend pas, en fait, dans ce texte, lui. Il ne pouvait pas parler, il voulait se présenter devant le peuple, verset 30, mais on lui dit de ne pas le faire. Mais le récit dans son ensemble, donne la défense sans que Paul doive parler. Quatre éléments. D'abord, il y a le fait que nous savons que la motivation de Démétrius n'est pas pure. C'est son amour pour l'argent qui est à la racine du mal dont nous témoignons ici. De deux, il y a la présence de ces fonctionnaires de la ville d'Éphèse, des Asiarques, qui sont, dit le texte, des amis de Paul. Donc Paul, pendant ces deux ans jusque-là, à Éphèse, il a pu gagner non seulement le respect de ces personnes bien placées, mais même leur amitié, il paraît, leur confiance. Le fait que des croyants soient connus comme étant des hommes et des femmes intègres par des responsables de la ville compte pour beaucoup lorsque de temps à autre, il y a des accusations contre eux. De trois, le désordre qui a lieu au sein de la ville n'a pas été provoqué par des croyants, par des chrétiens, mais plutôt par des artisans des idoles. Et les responsables et le secrétaire de la ville qui se met à parler à la fin de ce récit, eux, ils comprennent cela. Ils les appellent, le secrétaire, à se servir des instances judiciaires qui existent plutôt que de se rassembler comme ça. Si chez les païens, donc, il y a un rassemblement dans lequel il y a confusion et perturbation, chez les chrétiens, il y a de l'ordre. Encore de l'ordre dans nos rassemblements aujourd'hui. Parce que nous ne cherchons pas à menacer la société de part de la perturbation. Et enfin, quatrième élément, le secrétaire de la ville, à partir du verset 35, prend la parole et il arrive à calmer, lui, la foule. Évidemment, il reste, lui, païen et éphésien. Et il affirme, parce que c'est un bon politicien, ce que Paul n'aurait jamais affirmé, bien sûr, que la grandeur d'Artémis n'est pas en doute. Si, si, elle est en doute. Mais au verset 37, il déclare Gaius et Aristarque innocents de ceux dont ils sont accusés. Certes, il n'a pas compris, lui, le secrétaire, la profondeur du message chrétien. Mais il sait que l'objectif de ces chrétiens ne vise pas Artémis en particulier et ne cherche pas la violence et la destruction physique du temple. Non, ceux qui courent le danger d'être accusés de sédition ou de révolte, ce sont des païens. Et c'est ainsi donc que le chemin est aplati pour permettre, encore une ironie, n'est-ce pas, que la voix proclamée par Paul et ses compatriotes poursuit sa course. L'histoire termine avec une approbation, ben oui, limitée, mais néanmoins importante, de la part des responsables de la ville envers ce nouveau mouvement chrétien. Et cela permet que le message se propage de plus en plus. Alors, quel était le cri de la foule au verset 34 ? Grande est l'Artémis des Éphésiens. Mais force est de constater que c'est le nom de Jésus qui est en train de devenir grand dans la région. Et cela comment ? Par la violence? Non. Par la proclamation transparente, intègre, du message de Jésus-Christ. Pas par toutes ces tactiques douteuses. Et j'aimerais dire que dans cette ville de Bruxelles, là où nous en sommes, nous avons aussi vu une avancée importante pour l'Évangile. Mais ce n'est pas encore le cas que nous avons vu une avancée importante de l'Évangile dans cette ville. Nous voyons, oui, merci Seigneur, des encouragements dans notre Église, mais également des défis. Notre foi semble être de plus en plus en porte-à-faux avec des valeurs de nos concitoyens. Mais nous ne devons pas perdre courage en tant que croyants en Jésus-Christ. Dieu, dans sa providence, c'est le moment dans lequel nous vivons. Et malgré les apparences, la parole continue à se répandre. Des hommes et des femmes continuent à se détourner de leurs vaines idoles vers le Dieu vivant et vrai. Je pense dans le dernier chant que nous allons chanter aujourd'hui, nous avons dans le troisième strophe une expression de cela. Trompé par l'éclat d'idoles vaines, nous étions aveugles. Mais Dieu a fait briller la lueur de vie. Nous sommes libérés pour l'adorer. Adorer le vrai seul Dieu unique. Et lorsque cela arrive, les amis, il y a encore une autre ironie qui joue. Car lorsque Démétrius et ses collègues se fabriquent de petites idoles d'Artémis, Paul et son équipe étaient en train de transformer des pêcheurs comme vous et moi à l'image de leur Créateur. Pour parvenir, comme Paul le dira aux Colossiens, à la vraie connaissance, conformément à l'image que celui qui l'a créé. Au lieu donc d'avoir besoin d'une petite image d'un faux Dieu, nous portons l'image du vrai Dieu qui nous a transformés. Voilà donc l'image, l'icône, d'où vient le mot, qui vaut la peine de posséder encore aujourd'hui, les amis. L'image de celui qui nous a créé, une identité là, qui nous permet d'attendre du ciel son Fils, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Ben, je vais prier pour terminer. Combien, Seigneur, nous te louons pour Jésus-Christ, celui qui nous pardonne de par son œuvre à la croix, celui qui œuvre en nous lorsque nous venons à lui par la foi, pour que nous puissions parvenir à la vraie connaissance, conformément à l'image de celui qui l'a créé, à toi, le seul vrai Dieu unique. Et que tu nous permettes, notre Dieu, de savoir à la fois que nous devons nous attendre à ces accusations injustes, parce qu'il y a une menace pour cette société idolâtre. Et aussi de savoir que dans ta bonté, dans ta grandeur, que la foi progresse, et la foi progresse malgré l'opposition. Et que nous ne soyons pas ceux qui sont agressifs auprès de nos concitoyens, nos amis, des différents membres de nos familles, mais que nous soyons ceux qui pointent toutes ces personnes vers celui qui peut les sauver, le Seigneur Jésus. Combien nous te sommes reconnaissants pour la possibilité encore aujourd'hui pour nous de rassembler paisiblement parce que tu nous as graciés, parce que nous t'appartenons. Et nous te prions, Seigneur, que d'autres puissent se joindre à nous. Et cela par la puissance de ta parole et l'œuvre donc de ton esprit. Nous te demandons cela au nom précieux de Jésus.